Bonjour à tous, messieurs les généraux, messieurs les officiers, messieurs les invités diplomatiques, chers professeurs et universitaires, membres du comité scientifique, chers camarades, permettez-moi avant de déposer nos valises au Mexique, de remercier ceux qui ont permis la tenue de ce colloque et qui m'ont invité à prendre la parole et à vous présenter ce sujet précis qu'est l'exportation du modèle de gendarmerie française au Mexique au moment de l'expédition militaire de Napoléon III. Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, décrit les gendarmes comme étant le rempart de la société. Appliqué au second empire mexicain de Maximilien, cette citation peut être travestie en « gendarme, rempart de l'Empire ». En 1861, les premières troupes françaises débarquent au Mexique et on dénombre plusieurs raisons à cette expédition. Tout d'abord, une raison économique, puisque le Mexique, libéré de la tutelle espagnole, refuse de payer ses dettes à la France. Ensuite, il faut distinguer une raison diplomatique. Napoléon III veut mener une politique de grandeur nationale et installer une zone d'influence française en Amérique dans le but de contrebalancer la montée en puissance des États-Unis dans cette région du monde. Il y a enfin une raison de politique intérieure. L'empereur veut s'attirer les faveurs des catholiques français tout en protégeant les catholiques mexicains, victimes des exactions républicaines. Par ailleurs, il apparaît que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Napoléon III ne semble pas déroger à la règle puisqu'il est fortement influencé par sa femme, très proche des milieux catholiques espagnols, qui l'incite fortement à envoyer ses troupes au Mexique. La finalité de cette expédition est bien la mise en place d'un empire vassal à celui de la France au Mexique, et avec à sa tête un Européen, Maximilien d'Autriche. Ainsi, avec les premières troupes françaises, débarquent une trentaine de gendarmes dès le mois de décembre 1861. Cette présence des gendarmes aux côtés des militaires et au Mexique pose deux questions. Tout d'abord, nous pouvons nous interroger et nous poser la question de savoir en quoi cette gendarmerie constitue une pièce maîtresse d'une opération qui sera baptisée par la suite la grande pensée du règne. Nous pouvons également nous interroger sur la manière dont ce contingent de gendarmes va ensuite devenir le creuset de l'établissement d'une gendarmerie impériale au Mexique. Dans un premier temps, nous allons nous attarder sur les missions de la gendarmerie française au Mexique. Ces missions sont doubles. D'une part, la police prévôtale, et d'autre part, l'établissement d'une gendarmerie mexicaine. Les prévôts français sont chargés de la discipline, de faire respecter l'ordre dans les cantonnements et de veiller au bon comportement des soldats français envers les Mexicains. On voit ici que gagner les cœurs dans le projet de Napoléon III est tout aussi important que de gagner les batailles. En 1865, par exemple, au port de Veracruz, des marins martiniquais quittent un débit de boissons mexicain sans payer. Après avoir été alertés, les gendarmes retrouvent ces marins français et parviennent à les interpeller suite tout de même à une petite rixe durant laquelle les gendarmes français auront à faire usage de leurs armes. On voit bien ici cette volonté de servir la société mexicaine et d'être irréprochable. Les prévôts français sont également chargés d'escorter les prisonniers, de lutter contre la désertion. Certains participent au combat, comme en démontrent les nombreux blessés, comme le prouvent les nombreux blessés durant les différentes batailles. Mais la mission la plus originale que reçoivent ces gendarmes français est de bâtir une gendarmerie mexicaine dans un pays qui est différent du leur et au milieu des forces locales préexistantes. Maximilien arrive au Mexique en 1864. La France fait aussitôt appliquer les premières mesures qui visent à mettre en place et à renforcer son empire. Le 25 janvier 1865 est adoptée la loi organique de l'armée impériale mexicaine. Tout est créé, organisé, réorganisé selon le modèle français. Un décret spécial concerne la création d'une gendarmerie. La première phrase que je vais vous citer montre bien l'inspiration française du texte. L'empereur, considérant qu'il est d'une absolue nécessité de veiller à la sécurité publique, à la conservation de l'ordre et à l'exécution des lois, a porté son attention d'une manière particulière sur la formation du corps de la gendarmerie, dont la tâche sera de rendre permanente la sécurité de ce pays. Donc pour ce faire, une légion est créée, elle-même divisée en trois compagnies, et sur demande expresse des autorités mexicaines, c'est un officier français qui reçoit la tâche d'organiser cette nouvelle gendarmerie. Il a pour mission de calquer au maximum cette nouvelle organisation sur le modèle, je cite, « de la même arme en France dont l'expérience a démontré la perfection ». Mais au Mexique, un pays très décentralisé, chaque localité entretient ses propres forces de sécurité. On dénombre ainsi plusieurs forces locales, les Resguardos, les Rurales, les gardes municipales, dont les volumes et les équipements et les résultats diffèrent selon les localités. L'entrée en action de la gendarmerie impériale bouleverse véritablement ce paysage policier mexicain et entraîne une refonte des forces locales. Seuls subsistent des gardes rurales stables et des gardes rurales mobiles destinés à assister la nouvelle troupe et à apporter en quelque sorte leur connaissance du terrain. À ce stade de la réflexion, nous pouvons nous poser la question de savoir comment finalement a été organisée, implantée et équipée cette gendarmerie mexicaine. Les débuts de cette gendarmerie sont très laborieux. De nombreux efforts sont à fournir sur le plan du recrutement et de l'équipement. Initialement, il était prévu de former un corps d'environ 2000 hommes, qui était composé comme suit, à peu près 1530 cavaliers, 178 hommes à pied, encadrés par 214 gradés et 28 officiers. Le maréchal Bazaine décrit la gendarmerie comme étant, je cite, « un corps d'élite qui ne doit être composé que d'hommes de choix ». Donc dès lors, les exigences en matière de recrutement sont très élevées. Pour atteindre ces objectifs de recrutement, trois mesures sont mises en place. Tout d'abord, un appel volontaire est adressé aux militaires français. Une commission est mise en place pour juger de leur aptitude à rejoindre l'arme. Et les critères qui sont pris en compte sont d'être libérable du service français, d'être de bonne moralité, comme en France, et originalité, d'avoir une certaine familiarité avec la langue espagnole. Autre mesure, pour favoriser le recrutement, les forces locales sont dissoutes afin de puiser dans ce vivier de recrutement des hommes désireux de servir leur pays. Par ailleurs, des incitations fiscales sont mises en place, des primes sont promises, et beaucoup y voient le moyen pour eux d'obtenir un nouveau statut, d'obtenir un nouveau départ, et de faire, pourquoi pas, la carrière... qu'il n'aurait pas eu une carrière plus prestigieuse. Ainsi, les rangs se remplissent petit à petit. Un maillage progressif du territoire s'opère, et les trois compagnies prévues sont mises en place. La première compagnie, forte de 130 hommes, est mise en place à Mexico. La seconde, forte de 100 hommes, est localisée à Puebla et dans son district. Et la troisième compagnie, forte de 124 hommes, s'établit dans la localité de La Cordova. Donc vous pouvez voir sur la carte qu'en réalité, le maillage s'établit entre Mexico et le port de Veracruz. Donc il s'agit en réalité d'établir véritablement un axe sûr dans cette région du pays pour permettre une sécurité des convois et sécuriser l'arrière des troupes qui sont par ailleurs déployés dans le reste du pays. Donc toutes ces brigades sont opérationnelles à la fin 1866 et plusieurs postes s'ouvrent à la périphérie de ces grandes localités. Le but étant donc de tenir les régions clés pour ensuite agir en tâche d'huile et assurer des jonctions entre les différentes localités et les grandes villes. Par ailleurs, des projets sont avancés pour constituer des troupes supplétives essentiellement composées d'Indiens. Le but est de rendre plus local le système français de gendarmerie. Il est vrai que les Indiens constituent la majorité de la population mexicaine et il est question donc de les utiliser pour donner une couleur plus locale, pour favoriser l'ancrage de cette gendarmerie mexicaine au sein du territoire d'une part et de la société d'autre part. Nous pouvons nous interroger par ailleurs sur l'équipement de ces troupes, puisque la question est rapidement posée aux autorités. L'expédition mexicaine coûte très cher à la France, c'est même un gouffre financier, et Napoléon III ne peut se permettre de prendre en charge l'ensemble de l'équipement et de l'armement de la gendarmerie mexicaine. L'engagement français est ici, comme souvent, limité pour raisons financières. Les autorités Les autorités mexicaines déplorent d'ailleurs ce problème, puisque la troupe, finalement, manque d'uniformité et donc, d'une certaine manière, de crédibilité. Pour illustrer ce manque d'uniformité, l'exemple de l'armement est probant. Donc, d'une part, les magasins d'artillerie français sont chargés de fournir des armes aux troupes mexicaines contre remboursement du gouvernement mexicain. Mais d'un autre côté, les autorités françaises encouragent les gendarmes à récupérer des armes partout où cela est possible, notamment sur les différents, dans les différentes localités et auprès des populations. Donc l'armement est donc totalement dépareillé. La fourniture en uniforme pose également problème. Cet exemple prouve les efforts français pour adapter leur modèle de gendarmerie au territoire mexicain. Le climat local est par exemple pris en compte. Et plusieurs études sont menées pour adapter les uniformes français au territoire mexicain. Au final, il est question d'équiper les gendarmes mexicains de culottes bouffantes, donc un peu comme celles des zouaves, de souliers pouvant préserver au mieux le pied de la poussière qui caractérise le territoire mexicain, et de s'accorder sur une coiffure pouvant protéger du soleil. Alors le choc des cultures ressort parfaitement sur la question de la coiffure. En France, nous savons tous que les gendarmes portent traditionnellement le bicorne à cette époque. Et afin de donner une couleur locale à la gendarmerie mexicaine, il est question de l'équiper du sombrero mexicain. Mais les Français constatent rapidement que la coiffure manque de cachet militaire. Et par ailleurs, ils ne veulent pas voir une troupe en rang coiffée d'un grand sombrero qui, selon eux, leur fait perdre toute crédibilité. Des études sont faites donc pour adapter ce sombrero et le faire correspondre aux conceptions militaires françaises. Il est question notamment de le réduire. On voit bien ici que les Français sont prêts à faire des concessions, mais pas trop. De même, les Français font leur possible pour que les éléments montés de la gendarmerie mexicaine n'aient pas à utiliser les chevaux mexicains. Donc on parle de chevaux mexicains, mais il s'agit davantage de mules robustes plutôt que de chevaux imposants qui correspondent qui caractérise le pandore français du XIXe siècle. Mais Maximilien n'aura pas le temps de valider ses projets d'uniforme. Aucun projet d'uniforme digne de ce nom ne le sera, ce qui constitue véritablement une entrave à la montée en puissance d'une gendarmerie mexicaine. Nous pouvons par ailleurs nous poser la question de savoir si ces efforts prometteurs pour mettre en place une gendarmerie mexicaine selon le modèle français sont suffisants pour inscrire ce projet dans la durée. On voit bien que plusieurs problèmes se posent. Et donc, il convient de s'interroger sur la montée en puissance de cette gendarmerie mexicaine. La gendarmerie mexicaine reçoit pour mission de pacifier l'arrière des lignes et de sécuriser les voies de transport pour que les ravitaillements et la circulation des troupes puissent se faire en toute sécurité. Peu d'informations subsistent concernant l'aspect judiciaire de leur action. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les gendarmes mexicains parviennent à faire du renseignement. Donc il est vrai que ces derniers logent souvent chez l'habitant, donc ce qui favorise cette recherche du renseignement. Ils parviennent ainsi, grâce à leur savoir-faire en matière de renseignement, à éviter de nombreuses attaques qui étaient dirigées contre eux. Il est vrai qu'ils incarnent le symbole de l'autorité impériale, et il ne faut pas oublier qu'ils jouent, par leur présence sur le terrain, un rôle politique majeur au service de l'Empire de Maximilien. Le retrait précipité des troupes françaises, qui s'achève en mars 1867, porte un coup fatal au processus d'exportation de la gendarmerie mexicaine. Les troupes impériales mexicaines sont acculées par les forces républicaines soutenues par les États-Unis. Donc les États-Unis qui soutiennent financièrement et matériellement les troupes républicaines qui sont retranchées au nord du pays. L'hostilité de la population grandit petit à petit et les gendarmes impériaux doivent faire face à ce phénomène et ils n'ont plus qu'à se battre jusqu'au bout. La bataille de San Jacinto constitue leur principal fait d'armes. Durant cette bataille, les troupes impériales sont défaites et une centaine de gendarmes mexicains sont passés par les armes et fusillés par les républicains. Par la suite, Maximilien prend la fuite et s'installe toujours dans des localités où des gendarmeries sont implantées, ce qui prouve à la fois l'organisation certaine de cette troupe qui est montée en puissance rapidement, donc en 2 ans, à partir de 1865, date de sa création jusqu'en 1867, Et cela prouve également la combativité de ces hommes. Donc, pour conclure, pouvons affirmer que l'exportation du modèle de gendarmerie française au Mexique est bel et bien réelle. La gendarmerie mexicaine, bâtie sur le modèle français, a bien existé, et la France exporte son modèle de sécurité intérieure. Cependant, n'ayant comme arme que leur savoir-faire, la gendarmerie est rapidement dépassée par les événements. Mais la France, en réalité, ne s'est pas donné les moyens de ses ambitions et n'a pas donné tous les moyens à cette gendarmerie de s'imposer. En effet, l'investissement inégal de la France, lié à de nombreuses difficultés inhérentes au pays mexicain, n'a pas permis à la gendarmerie mexicaine de se renforcer et de s'ancrer dans le pays. La disparition de l'Empire provoque la disparition de la gendarmerie mexicaine. La République est de nouveau proclamée et les dirigeants cherchent à effacer tous les symboles de l'Empire. Ils emportent donc par là même la gendarmerie impériale mexicaine. Ironie du sort, les républicains décident d'établir un modèle de sécurité intérieure fondé sur le modèle espagnol de la Guardia Civil. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette Guardia Civil, finalement, est elle-même d'inspiration française, puisque ce sont les troupes françaises de Napoléon qui l'ont implantée en Espagne. Donc finalement, la gendarmerie, le modèle de gendarmerie française reste implanté au Mexique. Et je terminerai en disant que ce modèle de gendarmerie française fait encore référence de nos jours en Amérique du Sud, en Amérique centrale, puisque récemment, les autorités françaises et mexicaines se sont mises d'accord sur une collaboration en matière de sécurité intérieure, l'accord plaçant la gendarmerie au centre des échanges futurs, la France étant ayant voulu apporter une aide au gouvernement mexicain au niveau de l'expertise, de la formation et de l'entraînement des troupes, dans le but de sauver le pays de la situation désastreuse qui a lieu, notamment en luttant contre les cartels de drogue. Je vous remercie.
Merci.